Consuelo, livre 2, chapitre 46. En parlant ainsi, ils arrivèrent à l'embranchement des deux routes où Consuelo avait rencontré Zenko, et de loin ils aperçurent la lueur de sa lanterne qu'il avait posée à terre à côté de lui. Consuelo, connaissant désormais les caprices dangereux et la force athlétique de l'innocent, se pressa involontairement contre Albert en signalant cet indice de son approche. « Pourquoi craignez-vous cette douce et affectueuse créature ?» lui dit le jeune comte, surpris et heureux pourtant de cette frayeur. « Zenko vous chérit, quoique depuis la nuit dernière, un mauvais rêve qu'il a fait l'ait rendu récalcitrant à mes désirs, et un peu hostile au généreux projet que vous formiez de venir me chercher. Mais il a la soumission d'un enfant dès que j'insiste auprès de lui, et vous allez le voir à vos pieds si je dis un mot. » « Ne l'humiliez pas devant moi, » répondit Consuelo. « N'aggravez pas l'aversion que je lui inspire. Quand nous l'aurons dépassé, je vous dirai quel motif sérieux j'ai de le craindre et de l'éviter désormais. » « Zenko est un être quasi céleste, » reprit Albert, « et je ne pourrai jamais le croire redoutable pour qui que ce soit. Son état d'extase perpétuelle lui donne la pureté et la charité des anges. » Cet état d'extase que j'admire moi-même, Albert, est une maladie quand il se prolonge. Ne vous abusez pas à cet égard. Dieu ne veut pas que l'homme abjure ainsi le sentiment et la conscience de sa vie réelle pour s'élever trop souvent à de vagues conceptions d'un monde idéal. La démence et la fureur sont au bout de ces sortes d'ivresses, comme un châtiment de l'orgueil et de l'oisiveté. Cinabre s'arrêta devant Zenko, et le regarda d'un air affectueux, attendant quelque caresse que cet ami ne daigna pas lui accorder. Il avait la tête dans ses deux mains, dans la même attitude et sur le même rocher où Consuelo l'avait laissé. Albert lui adressa la parole en bohémien, et il répondit à peine. Il secouait la tête d'un air découragé. Ses joues étaient inondées de larmes, et il ne voulait pas seulement regarder Consuelo. Albert éleva la voix et l'interpella avec force. Mais il y avait plus d'exhortation et de tendresse que de commandement et de reproche dans les inflexions de sa voix. Zenko se leva enfin et alla tendre la main à Consuelo, qui la lui serra en tremblant. « Maintenant, lui dit-il en allemand en la regardant avec douceur, quoique avec tristesse, tu ne dois plus me craindre. « Mais tu me fais bien du mal, et je sens que ta main est pleine de nos malheurs. » Il marcha devant eux en échangeant de temps en temps quelques paroles avec Albert. Il suivait la galerie solide et spacieuse que Consuelo n'avait pas encore parcourue de ce côté, et qui les conduisit à une voûte ronde où ils retrouvèrent l'eau de la source, affluant dans un vaste bassin fait de mains d'homme et revêtu de pierres taillées. Elle s'en échappait par deux courants, dont l'un se perdait dans les cavernes et l'autre se dirigeait vers la citerne du château. Ce fut celui-là que Zenko ferma, en replaçant de sa main herculéenne trois énormes pierres qu'il dérangeait lorsqu'il voulait tarir la citerne jusqu'au niveau de l'arcade et de l'escalier par où l'on remontait à la terrasse d'Albert. « Asseyons-nous ici, » dit le comte à sa compagne, pour donner à l'eau du puits le temps de s'écouler par un déversoir. « Que je connais trop bien !» dit Consuelo en frissonnant de la tête aux pieds. « Que voulez-vous dire ? » demanda Albert en la regardant avec surprise. « Je vous l'apprendrai plus tard, » répondit Consuelo. « Je ne veux pas vous attrister et vous émouvoir maintenant par l'idée des périls que j'ai surmontés. » « Mais que veut-elle dire ? » s'écria Albert épouvanté en regardant Zenko. Zenko répondit en bohémien d'un air d'indifférence, en pétrissant avec ses longues mains brunes des amas de glaise qu'il plaçait dans l'interstice des pierres de son écluse pour hâter l'écoulement de la citerne. « Expliquez-vous, Consuelo, » dit Albert avec agitation. « Je ne peux rien comprendre à ce qu'il me dit. Il prétend que ce n'est pas lui qui vous a amené jusqu'ici, que vous y êtes venu par des souterrains que je sais impénétrables et où une femme délicate n'eût jamais osé se hasarder ni pu se diriger. Il dit, grand Dieu, que ne dit-il pas le malheureux, que c'est le destin qui vous a conduite et que l'archange Michel, qu'il appelle le superbe et le dominateur, vous a fait passer à travers l'eau et les abîmes. « Il est possible, répondit Consuelo avec un sourire, que l'archange Michel s'en soit mêlé, car il est certain que je suis venu par le déversoir de la fontaine, que j'ai devancé le torrent à la course, que je me suis cru perdu deux ou trois fois, que j'ai traversé des cavernes et des carrières où j'ai pensé devoir être étouffé ou englouti à chaque pas. Et pourtant, ces dangers n'étaient pas plus affreux que la colère de Zenko, lorsque le hasard ou la providence m'ont fait retrouver la bonne route. » Ici, Consuelo, qui s'exprimait toujours en espagnol avec Albert, lui raconta en peu de mots l'accueil que son pacifique Zenko lui avait fait, et la tentative de l'enterrer vivante, qu'il avait presque entièrement exécutée, au moment où elle avait eu la présence d'esprit de l'apaiser par une phrase singulièrement hérétique. Une sueur froide ruissela sur le front d'Albert en apprenant ces détails incroyables, et il lança plusieurs fois sur Zenko des regards terribles, comme s'il eût voulu l'anéantir. Zenko, en les rencontrant, prit une étrange expression de révolte et de dédain. Consuelo trembla de voir ces deux insensés se tourner l'un contre l'autre, car, malgré la haute sagesse et l'exquisité de sentiments qui inspiraient la plupart des discours d'Albert, il était bien évident pour elle que sa raison avait reçu de graves atteintes dont elle ne se relèverait peut-être jamais entièrement. Elle essaya de les réconcilier en leur disant à chacun des paroles affectueuses. Mais Albert, se levant et remettant les clés de son ermitage à Zenko, lui adressa quelques mots très froids, auquel Zenko se soumit à l'instant même. Il reprit sa lanterne et s'éloigna en chantant des airs bizarres sur des paroles incompréhensibles. « Consuelo, dit Albert lorsqu'il l'eut perdu de vue, si ce fidèle animal qui se couche à vos pieds devenait enragé, oui, si mon pauvre cinabre compromettait votre vie par une fureur involontaire, il me faudrait bien le tuer. » Et croyez que je n'hésiterai pas, quoique ma main n'ait jamais versé de sang, même celui des êtres inférieurs à l'homme. Soyez donc tranquille, aucun danger ne vous menacera plus. « De quoi parlez-vous, Albert ? » répondit la jeune fille inquiète de cette allusion imprévue. « Je ne crains plus rien. Zenko est encore un homme, bien qu'il ait perdu la raison par sa faute peut-être, et aussi un peu par la vôtre. Ne parlez ni de sang ni de châtiment. C'est à vous de le ramener à la vérité et de le guérir au lieu d'encourager son délire. Venez, partons. Je tremble que le jour ne se lève et ne nous surprenne à notre arrivée. » Tu as raison, dit Albert en reprenant sa route. La sagesse parle par ta bouche, Consuelo. Ma folie a été contagieuse pour cet infortuné. Et il était temps que tu vinsses nous tirer de cet abîme où nous roulions tous les deux. Guéri par toi, je tâcherai de guérir Zenko. Et si pourtant je n'y réussis point, si sa démence met encore ta vie en péril, quoique Zenko soit un homme devant Dieu et un ange dans sa tendresse pour moi, quoiqu'il soit le seul véritable ami que j'ai eu jusqu'ici sur la terre, sois certaine, Consuelo, que je l'arracherai de mes entrailles et que tu ne le reverras jamais. « Assez, assez, Albert !» murmura Consuelo, incapable après tant de frayeurs de supporter une frayeur nouvelle. « N'arrêtez pas votre pensée sur de pareilles suppositions. J'aimerais mieux 100 fois perdre la vie que de mettre dans la vôtre une nécessité et un désespoir semblables. » Albert ne l'écoutait point et semblait égaré. Il oubliait de la soutenir et ne la voyait plus défaillir et se heurter à chaque pas. Il était absorbé par l'idée des dangers qu'elle avait courus pour lui. et dans sa terreur en se les retraçant, dans sa sollicitude ardente, dans sa reconnaissance exaltée, il marchait rapidement, faisant retentir le souterrain de ses exclamations entrecoupées et la laissant se traîner derrière lui avec des efforts de plus en plus pénibles. Dans cette situation cruelle, Consuelo pensa à Zenko, qui était derrière elle et qui pouvait revenir sur ses pas. Au torrent, qu'il tenait toujours, pour ainsi dire, dans sa main et qu'il pouvait déchaîner encore une fois au moment où elle remonterait le puits, seule et privée du secours d'Albert. Car celui-ci, en proie à une fantaisie nouvelle, semblait l'avoir devant lui et suivre un fantôme trompeur, tandis qu'il l'abandonnait dans les ténèbres. C'en était trop pour une femme, et pour Consuelo elle-même. Cinabre marchait aussi vite que son maître, et fuyait en portant le flambeau. Consuelo avait laissé le sien dans la cellule. Le chemin faisait des angles nombreux, derrière lesquels la clarté disparaissait à chaque instant. Consuelo heurta contre un de ces angles, tomba et ne put se relever. Le froid de la mort parcourut tous ses membres. Une dernière appréhension se présenta rapidement à son esprit. Zenko, pour cacher l'escalier et l'issue de la citerne, avait probablement reçu l'ordre de lâcher l'écluse après un temps déterminé. Lors même que la haine ne l'inspirerait pas, il devait obéir par habitude à cette précaution nécessaire. C'en était donc fait, pensa Consuelo en faisant de vaines tentatives pour se traîner sur ses genoux. Je suis la proie d'un destin impitoyable. Je ne sortirai plus de ce souterrain funeste. Mes yeux ne reverront plus la lumière du ciel. Déjà, un voile plus épais que celui des ténèbres extérieures s'étendait sur sa vue. Ses mains s'engourdissaient, et une apathie qui ressemblait au dernier sommeil suspendait ses terreurs. Tout à coup, elle se sent pressée et soulevée dans des bras puissants qui la saisissent et l'entraînent vers la citerne. Un sein embrasé palpite contre le sien et le réchauffe. Une voix amie et caressante lui adresse de tendres paroles. Cinabre bondit devant elle en agitant la lumière. C'est Albert qui, revenu à lui, l'emporte et la sauve avec la passion d'une mère qui vient de perdre et de retrouver son enfant. En 3 minutes, ils arrivèrent au canal, où l'eau de la source venait de s'épancher. Ils atteignirent l'arcade et l'escalier de la citerne. Cinabre, habitué à cette dangereuse ascension, s'élança le premier, comme s'il eût craint d'entraver les pas de son maître en se tenant trop près de lui. Albert, portant Consuelo d'un bras et se cramponnant de l'autre à la chaîne, remonta cette spirale au fond de laquelle l'eau s'agitait déjà pour remonter aussi. Ce n'était pas le moindre des dangers que Consuelo eut traversé. Mais elle n'avait plus peur. Albert était doué d'une force musculaire auprès de laquelle celle de Zenko n'était qu'un jeu. Et dans ce moment, il était animé d'une puissance surnaturelle. Lorsqu'il déposa son précieux fardeau sur la margelle du puits, à la clarté de l'aube naissante, Consuelo, respirant enfin et se détachant de sa poitrine haletante, essuya avec son voile son large front baigné de sueur. « Ami, lui dit-elle avec tendresse, sans vous j'allais mourir, et vous m'avez rendu tout ce que j'ai fait pour vous. Mais je sens maintenant votre fatigue plus que vous-même, et il me semble que je vais y succomber à votre place. « Oh, ma petite Zingarelle !» lui dit Albert avec enthousiasme, en baisant le voile qu'elle appuyait sur son visage. « Tu es aussi légère dans mes bras que le jour où je t'ai descendue du Schreckenstein pour te faire entrer dans ce château. » « D'où vous ne sortirez plus sans ma permission, Albert. N'oubliez pas vos serments. » « Ni toi les tiens, » lui répondit-il en s'agenouillant devant elle. Il l'aida à s'envelopper avec le voile et à traverser sa chambre, d'où elle s'échappa furtive pour regagner la sienne propre. On commençait à s'éveiller dans le château. Déjà, la chanoinesse faisait entendre à l'étage inférieur une toux sèche et perçante, signal de son lever. Consuelo eut le bonheur de n'être vu ni entendu de personne. La crainte lui fit retrouver des ailes pour se réfugier dans son appartement. D'une main agitée, elle se débarrassa de ses vêtements souillés et déchirés et les cacha dans un coffre dont elle ôta la clé. Elle recouvra la force et la mémoire nécessaires pour faire disparaître toute trace de son mystérieux voyage. Mais à peine eut-elle laissé tomber sa tête accablée sur son chevet, qu'un sommeil lourd et brûlant, plein de rêves fantastiques et d'événements épouvantables, vint l'y clouer sous le poids de la fièvre envahissante et inexorable. Chapitre 47. Cependant, la chanoinesse Wenceslawa, après une demi-heure d'oraison, monta l'escalier et, suivant sa coutume, consacra le premier soin de sa journée à son cher neveu. Elle se dirigea vers la porte de sa chambre et colla son oreille contre la serrure, quoique avec moins d'espérance que jamais d'entendre les légers bruits qui devaient lui annoncer son retour. Quelles furent sa surprise et sa joie lorsqu'elle saisit le son égal de sa respiration durant le sommeil. Elle fit un grand signe de croix et se hasarda à tourner doucement la clé dans la serrure et à s'avancer sur la pointe du pied. Elle vit Albert paisiblement endormi dans son lit et Cinabre couché en rond sur le fauteuil voisin. Elle n'éveilla ni l'un ni l'autre et courut trouver le comte Christian qui, prosterné dans son oratoire, demandait avec sa résignation accoutumée que son fils lui fût rendu, soit dans le ciel, soit sur la terre. « Mon frère, lui dit-elle à voix basse en s'agenouillant auprès de lui, suspendez vos prières et cherchez dans votre cœur les plus ferventes bénédictions. Dieu vous a exaucé. » Elle n'eut pas besoin de s'expliquer davantage. Le vieillard, se retournant vers elle et rencontrant ses petits yeux clairs animés d'une joie profonde et sympathique, leva ses mains desséchées vers l'autel en s'écriant d'une voix éteinte « Mon Dieu, vous m'avez rendu mon fils !» Et tous deux, par une même inspiration, se mirent à réciter alternativement à demi-voix les versets du beau cantique de Siméon « Maintenant je puis mourir, etc. » On résolut de ne pas réveiller Albert. On appela le baron, le chapelain, tous les serviteurs, et l'on écouta dévotement la messe d'action de grâce dans la chapelle du château. Amélie apprit avec une joie sincère le retour de son cousin, mais elle trouva fort injuste que pour célébrer pieusement cet heureux événement, on la fit lever à 5 heures du matin pour avaler une messe durant laquelle il lui fallut étouffer bien des bâillements. Pourquoi votre amie, la bonne Porporina, ne s'est-elle pas unie à nous pour remercier la Providence ? Dit le comte Christian à sa nièce lorsque la messe fut finie. J'ai essayé de la réveiller, répondit Amélie. Je l'ai appelée, secouée et avertie de toutes les façons, mais je n'ai jamais pu lui rien faire comprendre, ni la décider à ouvrir les yeux. Si elle n'était brûlante et rouge comme le feu, je l'aurais crue morte. Il faut qu'elle ait bien mal dormi cette nuit et qu'elle ait la fièvre. « Elle est malade, en ce cas, cette digne personne !» reprit le vieux comte. « Ma chère sœur Wenceslawa, vous devriez aller la voir et lui porter les soins que son état réclame. Ah, Dieu ne plaise qu'un si beau jour soit attristé par la souffrance de cette noble fille !»« J'irai, mon frère !» répondit la chanoinesse, qui ne disait plus un mot et ne faisait plus un pas à propos de Consuelo sans consulter les regards du chapelain. « Mais ne vous tourmentez pas, Christian, ce ne sera rien. La signora Nina est très nerveuse, elle sera bientôt guérie. N'est-ce pas pourtant une chose bien singulière ? » dit-elle au chapelain un instant après, lorsqu'elle put le prendre à part. Que cette fille ait prédit le retour d'Albert avec tant d'assurance et de vérité. Monsieur le chapelain, nous nous sommes peut-être trompés sur son compte. C'est peut-être une espèce de sainte qui a des révélations. Une sainte serait venue entendre la messe au lieu d'avoir la fièvre dans un pareil moment, objecta le chapelain d'un air profond. Cette remarque judicieuse arracha un soupir à la chanoinesse. Elle alla néanmoins voir Consuelo, et lui trouva une fièvre brûlante accompagné d'une somnolence invincible. Le chapelain fut appelé et déclara qu'elle serait fort malade si cette fièvre continuait. Il interrogea la jeune baronne pour savoir si sa voisine de chambre n'avait pas eu une nuit très agitée. « Tout au contraire, répondit Amélie, je ne l'ai pas entendue remuer. Je m'attendais, d'après ses prédictions et les beaux contes qu'elle nous faisait depuis quelques jours, à entendre le sabbat danser dans son appartement. Mais il faut que le diable ait emporté bien loin d'ici, ou qu'elle ait affaire à des lutins fort bien appris, car elle n'a pas bougé, que je sache, et mon sommeil n'a pas été troublé un seul instant. » Ces plaisanteries parurent de fort mauvais goût au chapelain. Et la chanoinesse, que son cœur sauvait des travers de son esprit, les trouva déplacées au chevet d'une compagne gravement malade. Elle n'en témoigna pourtant rien, attribuant l'aigreur de sa nièce à une jalousie trop bien fondée. Et elle demanda au chapelain quels médicaments il fallait administrer à la porporine. Il ordonna un calmant, qu'il fut impossible de lui faire avaler. Ses dents étaient contractées et sa bouche livide repoussait tout breuvage. Le chapelain prononça que c'était un mauvais signe. Mais avec une apathie malheureusement trop contagieuse dans cette maison, il remit à un nouvel examen le jugement qu'il pouvait porter sur la malade. « On verra, il faut attendre, on ne peut encore rien décider. » Telles étaient les sentences favorites de l'Esculape tonsuré. « Si cela continue, répéta-t-il en quittant la chambre de Consuelo, il faudra songer à appeler un médecin, car je ne prendrai pas sur moi de soigner un cas extraordinaire d'affection morale. Je prierai pour cette demoiselle, et peut-être dans la situation d'esprit où elle s'est trouvée depuis ces derniers temps, devons-nous attendre de Dieu seul des secours plus efficaces que ceux de l'art. » On laissa une servante auprès de Consuelo, et on alla se préparer à déjeuner. La chanoinesse pétrit elle-même le plus beau gâteau qui fût jamais sorti de ses mains savantes. Elle se flattait qu'Albert, après un long jeûne, mangerait avec plaisir ce mets favori. La belle Amélie fit une toilette éblouissante de fraîcheur, en se disant que son cousin aurait peut-être quelque regret de l'avoir offensée et irritée quand il la retrouverait si séduisante. Chacun songeait à ménager quelque agréable surprise au jeune comte, et l'on oublia le seul être dont on eût dû s'occuper. La pauvre Consuelo, à qui on était redevable de son retour, et qu'Albert allait être impatient de revoir. Albert s'éveilla bientôt, et au lieu de faire d'inutiles efforts pour se rappeler les événements de la veille, comme il lui arrivait toujours après les accès de démence qui le conduisaient à sa demeure souterraine, il retrouva promptement la mémoire de son amour et du bonheur que Consuelo lui avait donné. Il se leva à la hâte, s'habilla, se parfuma et courut se jeter dans les bras de son père et de sa tante. La joie de ses bons parents fut portée au comble lorsqu'ils virent qu'Albert jouissait de toute sa raison, qu'il avait conscience de sa longue absence et qu'il leur en demandait pardon avec une ardente tendresse, leur promettant de ne plus leur causer jamais ce chagrin et ces inquiétudes. Il vit les transports qu'excitait ce retour au sentiment de la réalité. Mais il remarqua les ménagements qu'on s'obstinait à garder pour lui cacher sa position. Et il se sentit un peu humilié d'être traité encore comme un enfant lorsqu'il se sentait redevenu un homme. Il se soumit à ce châtiment trop léger pour le mal qu'il avait causé, en se disant que c'était un avertissement salutaire et que Consuelo lui saurait gré de le comprendre et de l'accepter. Lorsqu'il s'assit à table, au milieu des caresses, des larmes de bonheur et des soins empressés de sa famille, il chercha des yeux avec anxiété celle qui était devenue nécessaire à sa vie et à son repos. Il vit sa place vide et n'osa demander pourquoi la porporina ne descendait pas. Cependant, la chanoinesse, qui le voyait tourner la tête et tressaillir chaque fois qu'on ouvrait les portes, crut devoir éloigner de lui toute inquiétude en lui disant que leur jeune hôtesse avait mal dormi, qu'elle se reposait et souhaitait garder le lit une partie de la journée. Albert comprit bien que sa libératrice devait être accablée de fatigue, et néanmoins l'effroi se peignit sur son visage à cette nouvelle. « Ma tante, » dit-il, ne pouvant contenir plus longtemps son émotion. « Je pense que si la fille adoptive du Porpora était sérieusement indisposée, nous ne serions pas tous ici, occupés tranquillement à manger et à causer autour d'une table. » « Rassurez-vous donc, Albert !» dit Amélie en rougissant de dépit. « La Nina est occupée à rêver de vous et à augurer votre retour qu'elle attend en dormant, tandis que nous le fêtons ici dans la joie. » Albert devint pâle d'indignation et lançant à sa cousine un regard foudroyant. « Si quelqu'un ici m'a attendu en dormant, dit-il, ce n'est pas la personne que vous nommez qui doit en être remerciée. La fraîcheur de vos joues, ma belle cousine, atteste que vous n'avez pas perdu en mon absence une heure de sommeil et que vous ne sauriez avoir en ce moment aucun besoin de repos. Je vous en rends grâce de tout mon cœur, car il me serait très pénible de vous en demander pardon, comme j'en demande pardon, avec honte et douleur à tous les autres membres et amis de ma famille. » « Grand merci de l'exception !» repartit Amélie, vermeille de colère. « Je m'efforcerai de la mériter toujours, en gardant mes veilles et mes soucis pour quelqu'un qui puisse m'en savoir gré et ne pas s'en faire un jeu. » Cette petite altercation, qui n'était pas nouvelle entre Albert et sa fiancée, mais qui n'avait jamais été aussi vive de part et d'autre, jeta, malgré tous les efforts qu'on fit pour en distraire Albert, de la tristesse et de la contrainte sur le reste de la matinée. La chanoinesse alla voir plusieurs fois sa malade et la trouva toujours plus brûlante et plus accablée. Amélie, que l'inquiétude d'Albert blessait comme une injure personnelle, alla pleurer dans sa chambre. Le chapelain se prononça au point de dire à la chanoinesse qu'il faudrait envoyer chercher un médecin le soir si la fièvre ne cédait pas. Le comte Christian retint son fils auprès de lui pour le distraire d'une sollicitude qu'il ne comprenait pas et qu'il croyait encore maladive. Mais en l'enchaînant à ses côtés par des paroles affectueuses, le bon vieillard ne sut pas trouver le moindre sujet de conversation et d'épanchement avec cet esprit qu'il n'avait jamais voulu sonder, dans la crainte d'être vaincu et dominé par une raison supérieure à la sienne en matière de religion. Il est bien vrai que le comte Christian appelait « folie et révolte » cette vive lumière qui perçait au milieu des bizarreries d'Albert, et dont les faibles yeux d'un rigide catholique n'eussent pu soutenir l'éclat. Mais il se raidissait contre la sympathie qui l'excitait à l'interroger sérieusement. Chaque fois qu'il avait essayé de redresser ses hérésies, il avait été réduit au silence par des arguments pleins de droiture et de fermeté. La nature ne l'avait point fait éloquent. Il n'avait pas cette faconde animée qui entretient la controverse, encore moins ce charlatanisme de discussion qui, à défaut de logique, en impose par un air de science et des fanfaronnades de certitude. Naïf et modeste, il se laissait fermer la bouche. Il se reprochait de n'avoir pas mis à profit les années de sa jeunesse pour s'instruire de ces choses profondes qu'Albert lui opposait. Et, certain qu'il y avait dans les abîmes de la science théologique des trésors de vérité, dont un plus habile et plus érudit que lui eût pu écraser l'hérésie d'Albert, il se cramponnait à sa foi ébranlée, se rejetant, pour se dispenser d'agir plus énergiquement, sur son ignorance et sa simplicité, qui enorgueillissait trop le rebelle et lui faisait ainsi plus de mal que de bien. Leur entretien, 20 fois interrompu par une sorte de crainte mutuelle et 20 fois repris avec effort de part et d'autre, finit donc par tomber de lui-même. Le vieux Christian s'assoupit sur son fauteuil et Albert le quitta pour aller s'informer de l'état de Consuelo, qui l'alarmait d'autant plus qu'on faisait plus d'efforts pour le lui cacher. Il passa plus de 2 heures à errer dans les corridors du château, guettant la chanoinesse et le chapelain au passage pour leur demander des nouvelles. Le chapelain s'obstinait à lui répondre avec concision et réserve. La chanoinesse se composait un visage riant dès qu'elle l'apercevait, et affectait de lui parler d'autre chose, pour le tromper par une apparence de sécurité. Mais Albert voyait bien qu'elle commençait à se tourmenter sérieusement, qu'elle faisait des voyages toujours plus fréquents à la chambre de Consuelo. Et il remarquait qu'on ne craignait pas d'ouvrir et de fermer à chaque instant les portes, comme si ce sommeil, prétendu paisible et nécessaire, n'eût pu être troublé par le bruit et l'agitation. Il s'enhardit jusqu'à approcher de cette chambre où il eût donné sa vie pour pénétrer un seul instant. Elle était précédée d'une première pièce et séparée du corridor par deux portes épaisses qui ne laissaient de passage ni à l'œil ni à l'oreille. La chanoinesse, remarquant cette tentative, avait tout fermé et verrouillé et ne se rendait plus auprès de la malade qu'en passant par la chambre d'Amélie qui était contiguë et où Albert n'eût été chercher des renseignements qu'avec une mortelle répugnance. Enfin, le voyant exaspéré et craignant le retour de son mal, elle prit sur elle de mentir. Et tout en demandant pardon à Dieu dans son cœur, elle lui annonça que la malade allait beaucoup mieux et qu'elle se promettait de descendre pour dîner avec la famille. Albert ne se méfia pas des paroles de sa tante, dont les lèvres pures n'avaient jamais offensé la vérité ouvertement comme elle venait de le faire. Et il alla retrouver le vieux comte, en hâtant de tous ses vœux l'heure qui devait lui rendre Consuelo et le bonheur. Mais cette heure sonna en vain. Consuelo ne parut point. La chanoinesse, faisant de rapides progrès dans l'art du mensonge, raconta qu'elle s'était levée, mais qu'elle s'était sentie un peu faible et avait préféré dîner dans sa chambre. On feignit même de lui envoyer une part choisie des mets les plus délicats. Ces ruses triomphèrent de l'effroi d'Albert. Quoiqu'il éprouvât une tristesse accablante et comme un pressentiment d'un malheur inouï, il se soumit et fit des efforts pour paraître calme. Le soir, Wenceslao vint, avec un air de satisfaction qui n'était presque plus joué, dire que la Porporina était mieux, qu'elle n'avait plus le teint animé, que son pouls était plutôt faible que plein, et qu'elle passerait certainement une excellente nuit. « Pourquoi donc suis-je glacé de terreur malgré ces bonnes nouvelles ?» pensa le jeune comte en prenant congé de ses parents à l'heure accoutumée. Le fait est que la bonne chanoinesse, qui, malgré sa maigreur et sa difformité, n'avait jamais été malade de sa vie, n'entendait rien du tout aux maladies des autres. Elle voyait Consuelo passer d'une rougeur dévorante à une pâleur bleuâtre. Son sang agité se congelait dans ses artères, et sa poitrine, trop oppressée pour se soulever sous l'effort de la respiration, paraître calme et immobile. Un instant, elle l'avait cru guérie et avait annoncé cette nouvelle avec une confiance enfantine. Mais le chapelain, qui en savait quelque peu davantage, voyait bien que ce repos apparent était l'avant-coureur d'une crise violente. Dès qu'Albert se fut retiré, il avertit la chanoinesse que le moment était venu d'envoyer chercher le médecin. Malheureusement, la ville était éloignée, la nuit obscure, les chemins détestables, et Hans bien lent malgré son zèle. L'orage s'éleva, la pluie tomba par torrents. Le vieux cheval que montait le vieux serviteur s'effraya, trébucha 20 fois, et finit par s'égarer dans les bois avec son maître consterné, qui prenait toutes les collines pour le Schreckenstein, et tous les éclairs pour le vol flamboyant d'un mauvais esprit. Ce ne fut qu'au grand jour que Hans retrouva sa route. Il approcha au trot le plus allongé qu'il put faire prendre à sa monture, de la ville où dormait profondément le médecin. Celui-ci s'éveilla, se para lentement et se mit enfin en route. On avait perdu à décider et à effectuer tout ceci 24 heures. Albert essaya vainement de dormir. Une inquiétude dévorante et les bruits sinistres de l'orage le tinrent éveillé toute la nuit. Il n'osait descendre, craignant encore de scandaliser sa tante, qui lui avait fait un sermon le matin sur l'inconvenance de ses importunités auprès de l'appartement de deux demoiselles. Il laissa sa porte ouverte et entendit plusieurs fois des pas à l'étage inférieur. Il courait sur l'escalier, mais ne voyant personne et n'entendant plus rien, Il s'efforçait de se rassurer et de mettre sur le compte du vent et de la pluie ces bruits trompeurs qui l'avaient effrayé. Depuis que Consuelo l'avait exigé, il soignait sa raison, sa santé morale, avec patience et fermeté. Il repoussait les agitations et les craintes, et tâchait de s'élever au-dessus de son amour, par la force de son amour même. Mais tout à coup, au milieu des roulements de la foudre et du craquement de l'antique charpente du château qui gémissait sous l'effort de l'ouragan, un long cri déchirant s'élève jusqu'à lui et pénètre dans ses entrailles comme un coup de poignard. Albert, qui s'était jeté tout habillé sur son lit avec la résolution de s'endormir, bondit, s'élance, franchit l'escalier comme un trait et frappe à la porte de Consuelo. Le silence était rétabli. Personne ne venait ouvrir. Albert croyait encore avoir rêvé. Mais un nouveau cri, plus affreux, plus sinistre encore que le premier, vint déchirer son cœur. Il n'hésite plus, fait le tour par un corridor sombre, arrive à la porte d'Amélie, la secoue et se nomme. Il entend pousser un verrou, et la voix d'Amélie lui ordonne impérieusement de s'éloigner. Cependant, les cris et les gémissements redoublent. C'est la voix de Consuelo, en proie à un supplice intolérable. Il entend son propre nom s'exhaler avec désespoir de cette bouche adorée. Il pousse la porte avec rage, fait sauter serrure et verrou, et, repoussant Amélie, qui joue la pudeur outragée en se voyant surprise en robe de chambre de damas et en coiffe de dentelle, il la fait tomber sur son sofa et s'élance dans la chambre de Consuelo, pâle comme un spectre et les cheveux dressés sur la tête. Chapitre 48. Consuelo, en proie à un délire épouvantable, se débattait dans les bras des deux plus vigoureuses servantes de la maison, qui avaient grand-peine à l'empêcher de se jeter hors de son lit. Tourmenté, ainsi qu'il arrive dans certains cas de fièvre cérébrale, par des terreurs inouïes, la malheureuse enfant voulait fuir les visions dont elle était assaillie. Elle croyait voir, dans les personnes qui s'efforçaient de la retenir et de la rassurer, des ennemis, des monstres acharnés à sa perte. Le chapelain consterné, qui la croyait prête à retomber foudroyée par son mal, répétait déjà auprès d'elle les prières des agonisants. Elle le prenait pour Zenko, construisant le mur qui devait l'ensevelir, en psalmodiant ses chansons mystérieuses. La chanoinesse tremblante, qui joignait ses faibles efforts à ceux des autres femmes pour la retenir dans son lit, lui apparaissait comme le fantôme des deux Wanda, la sœur de Ziska et la mère d'Albert, se montrant tour à tour dans la grotte du solidaire et lui reprochant d'usurper leurs droits et d'envahir leur domaine. Ses exclamations, ses gémissements et ses prières délirantes et incompréhensibles pour les assistants étaient en rapport direct avec les pensées et les objets qu'il avait si vivement agités et frappés la nuit précédente. Elle entendait gronder le torrent, et avec ses bras, elle imitait le mouvement de nager. Elle secouait sa noire chevelure éparse sur ses épaules et croyait en voir tomber des flots d'écume. Toujours, elle sentait Zenko derrière elle, occupée à ouvrir l'écluse, ou devant elle, acharnée à lui fermer le chemin. Elle ne parlait que d'eau et de pierre, avec une continuité d'images qui faisait dire au chapelain en secouant la tête « Voilà un rêve bien long et bien pénible. Je ne sais pourquoi elle s'est tant préoccupée l'esprit dernièrement de cette citerne. C'est sans doute un commencement de fièvre, et vous voyez que son délire a toujours cet objet en vue. » Au moment où Albert entra, éperdu dans sa chambre, Consuelo, épuisé de fatigue, ne faisait plus entendre que des mots inarticulés qui se terminaient par des cris sauvages. La puissance de la volonté ne gouvernant plus ses terreurs, comme au moment où elle les avait affrontées, elle en subissait l'effet rétroactif avec une intensité horrible. Elle retrouvait cependant une sorte de réflexion tirée de son délire même, et se prenait à appeler Albert d'une voix si pleine et si vibrante que toute la maison semblait en devoir être ébranlée sur ses fondements. Puis ses cris se perdaient en de longs sanglots qui paraissaient la suffoquer, bien que ses yeux hagards fussent secs et d'un éclat effrayant. « Me voici, me voici !» s'écria Albert en se précipitant vers son lit. Consuelo l'entendit, reprit toute son énergie et, s'imaginant aussitôt qu'il fuyait devant elle, se dégagea des mains qui la tenaient avec cette rapidité de mouvement et cette force musculaire que donne aux êtres les plus faibles le transport de la fièvre. Elle bondit au milieu de la chambre, échevelée, les pieds nus, le corps enveloppé d'une légère robe de nuit blanche et froissée qui lui donnait l'air d'un spectre échappé de la tombe. Et, au moment où on croyait la ressaisir, elle sauta par-dessus l'épinette qui se trouvait devant elle, avec l'agilité d'un chat sauvage, atteignit la fenêtre qu'elle prenait pour l'ouverture de la fatale citerne, y posa un pied, étendit les bras, et, criant de nouveau le nom d'Albert au milieu de la nuit orageuse et sinistre, elle allait se précipiter, lorsqu'Albert, encore plus agile et plus fort qu'elle, l'entoura de ses bras et la reporta sur son lit. Elle ne le reconnut pas, mais elle ne fit aucune résistance et cessa de crier. Albert lui prodigua en espagnol les plus doux noms et les plus ferventes prières. Elle l'écoutait, les yeux fixes et sans le voir ni lui répondre. Mais tout à coup, se relevant et se plaçant à genoux sur son lit, elle se mit à chanter une strophe du Te Deum de Handel qu'elle avait récemment lue et admirée. Jamais sa voix n'avait eu plus d'expression et plus d'éclat. Jamais elle n'avait été aussi belle que dans cette attitude extatique, avec ses cheveux flottants, ses joues embrasées du feu de la fièvre, et ses yeux qui semblaient lire dans le ciel entr'ouvert pour eux seuls. La chanoinesse en fut émue au point de s'agenouiller elle-même au pied du lit en fondant en larmes. Et le chapelain, malgré son peu de sympathie, courba la tête et fut saisie d'un respect religieux. À peine Consuelo eut-elle fini la strophe qu'elle fit un grand soupir. Une joie divine brilla sur son visage. « Je suis sauvée !» s'écria-t-elle. Et elle tomba à la renverse, pâle et froide comme le marbre, les yeux encore ouverts mais éteints, les lèvres bleues et les bras raides. Un instant de silence et de stupeur succéda à cette scène. Amélie, qui, debout et immobile sur le seuil de sa chambre, avait assisté, sans oser faire un pas, à ce spectacle effrayant, tomba évanouie d'horreur. La chanoinesse et les deux femmes coururent à elle pour la secourir. Consuelo resta, étendue et livide, appuyée sur le bras d'Albert, qui avait laissé tomber son front sur le sein de l'agonisante, et ne paraissait pas plus vivant qu'elle. La chanoinesse n'eut pas plutôt fait déposer Amélie sur son lit qu'elle revint sur le seuil de la chambre de Consuelo. « Eh bien, monsieur le chapelain » dit-elle d'un air abattu. « Madame, c'est la mort !» répondit le chapelain d'une voix profonde, en laissant retomber le bras de Consuelo, dont il venait d'interroger le pouls avec attention. « Non, ce n'est pas la mort. Non, mille fois non !» s'écria Albert en se soulevant impétueusement. « J'ai consulté son cœur, mieux que vous n'avez consulté son bras. Il bat encore. Elle respire. Elle vit. Oh, elle vivra. Ce n'est pas ainsi, ce n'est pas maintenant qu'elle doit finir. Qui donc a eu la témérité de croire que Dieu avait prononcé sa mort? Voici le moment de la soigner efficacement. « Monsieur le chapelain, donnez-moi votre boîte. Je sais ce qu'il lui faut, et vous ne le savez pas. Malheureux que vous êtes, obéissez-moi. Vous ne l'avez pas secourue. Vous pouviez empêcher l'invasion de cette horrible crise. Vous ne l'avez pas fait, vous ne l'avez pas voulu. Vous m'avez caché son mal, vous m'avez tous trompé. Vous vouliez donc la perdre. Votre lâche prudence, votre hideuse apathie, vous ont lié la langue et les mains. Donnez-moi votre boîte, vous dis-je. » Et laissez-moi agir. » Et comme le chapelain hésitait à lui remettre ses médicaments, qui, sous la main inexpérimentée d'un homme exalté et à demi fou, pouvaient devenir des poisons, il la lui arracha violemment. Sourd aux observations de sa tante, il choisit et dosa lui-même les calmants impérieux qui pouvaient agir avec promptitude. Albert était plus savant en beaucoup de choses qu'on ne le pensait. Il avait étudié sur lui-même, à une époque de sa vie où il se rendait encore compte des fréquents désordres de son cerveau, l'effet des révulsifs les plus énergiques. Inspiré par un jugement prompt, par un zèle courageux et absolu, il administra la potion que le chapelain n'eût jamais osé conseiller. Il réussit, avec une patience et une douceur incroyables, à desserrer les dents de la malade et à lui faire avaler quelques gouttes de ce remède efficace. Au bout d'une heure, pendant laquelle il réitéra plusieurs fois le traitement, Consuelo respirait librement. Ses mains avaient repris de la tiédeur et ses traits de l'élasticité. Elle n'entendait et ne sentait rien encore. Mais son accablement était une sorte de sommeil et une pâle coloration revenait à ses lèvres. Le médecin arriva et, voyant le cas sérieux, déclara qu'on l'avait appelé bien tard et qu'il ne répondait de rien. Il eût fallu pratiquer une saignée la veille. Maintenant, le moment n'était plus favorable. Sans aucun doute, la saignée ramènerait la crise. Ceci devenait embarrassant. « Elle la ramènera, » dit Albert. « Et cependant, il faut saigner. » Le médecin allemand, lourd personnage plein d'estime pour lui-même et habitué dans son pays où il n'avait point de concurrent à être écouté comme un oracle, souleva son épaisse paupière et regarda en clignotant celui qui se permettait de trancher ainsi la question. « Je vous dis qu'il faut saigner, » reprit Albert avec force. « Avec ou sans la saignée, la crise doit revenir. »«
Permettez, » dit le docteur Wetzelius, « ceci n'est pas aussi certain que vous paraissez le croire. »
Et il sourit d'un air un peu dédaigneux et ironique.
« Si la crise ne revient pas, tout est perdu, » repartit Albert. « Vous devez le savoir. Cette somnolence conduit droit à l'engourdissement des facultés du cerveau, à la paralysie et à la mort. » Votre devoir est de vous emparer de la maladie, d'en ranimer l'intensité pour la combattre, de lutter enfin. Sans cela, que venez-vous faire ici? Les prières et les sépultures ne sont pas de votre ressort. Saignez, ou je saigne moi-même. »
Le docteur savait bien qu'Albert raisonnait juste, et il avait eu tout d'abord l'intention de saigner. Mais il ne convenait pas à un homme de son importance de prononcer et d'exécuter aussi vite. C'eût été donné à penser que le cas était simple et le traitement facile. Et notre Allemand avait coutume de feindre de grandes perplexités, un pénible examen, afin de sortir de là triomphant, comme par une soudaine illumination de son génie, afin de faire répéter ce que mille fois il avait fait dire de lui. La maladie était si avancée et si dangereuse que le docteur Wetzelius lui-même ne savait à quoi se résoudre. Nul autre que lui n'eût saisi le moment et deviné le remède. C'est un homme bien prudent, bien savant, bien fort. Il n'a pas son pareil, même à Vienne. Quand il se vit contrarié et mis au pied du mur, sans façon, par l'impatience d'Albert, « Si vous êtes médecin, lui répondit-il, et si vous avez autorité ici, je ne vois pas pourquoi l'on m'a fait appeler, et je m'en retourne chez moi. »
« Si vous ne voulez point vous décider en temps opportun, vous pouvez vous retirer, » dit Albert.
Le docteur Wetzelius, profondément blessé d'avoir été associé à un confrère inconnu qui le traitait avec si peu de déférence, se leva et passa dans la chambre d'Amélie, sans s'occuper des nerfs de cette jeune personne, qui le demandait instamment, et pour prendre congé de la chanoinesse. Mais celle-ci le retint.
« Hélas, mon cher docteur !» lui dit-elle. « Vous ne pouvez pas nous abandonner dans une pareille situation. Voyez quelle responsabilité pèse sur nous. Mon neveu vous a offensé, mais devez-vous prendre au sérieux la vivacité d'un homme si peu maître de lui-même »
« Est-ce donc là le comte Albert ?» demanda le docteur stupéfait. « Je ne l'aurais jamais reconnu. Il est tellement changé. »
« Sans doute, depuis près de 10 ans que vous ne l'avez vu, « il s'est fait en lui bien du changement. »«
Je le croyais complètement établi, » dit le docteur avec malignité, « car on ne m'a fait appeler une seule fois depuis son retour. »«
Ah, mon cher docteur, vous savez bien qu'Albert n'a jamais voulu se soumettre aux arrêts de la science. »«
Et cependant, le voilà médecin lui-même, à ce que je vois. »«
Il a quelques notions de tout, mais il porte en tout sa précipitation bouillante. L'état affreux où il vient de voir cette jeune fille l'a beaucoup troublé. Autrement, vous l'eussiez trouvé plus poli, plus sensé et plus reconnaissant des soins que vous lui avez donnés dans son enfance.
« Je crains qu'il n'en ait plus besoin que jamais, » reprit le docteur, qui, malgré son respect pour la famille et le château, aimait mieux affliger la chanoinesse par cette dure réflexion que de quitter son attitude dédaigneuse et de renoncer à la petite vengeance de traiter Albert comme un insensé. La chanoinesse souffrit de cette cruauté, d'autant plus que le dépit du docteur pouvait lui faire divulguer l'état de son neveu, qu'elle prenait tant de peine pour dissimuler. Elle se soumit pour le désarmer et lui demanda humblement ce qu'il pensait de cette saignée conseillée par Albert.
« Je pense que c'est une absurdité pour le moment, » dit le docteur, qui voulait garder l'initiative et laisser tomber l'arrêt en toute liberté de sa bouche révérée.
« J'attendrai une heure ou deux. Je ne perdrai pas de vue la malade, et si le moment se présente, fût-ce plus tôt que je ne pense, j'agirai. Mais dans la crise présente, l'état du pouls ne me permet pas de rien préciser. »
« Vous nous restez donc, béni soyez-vous, excellent docteur !»«
Du moment que mon adversaire est le jeune comte, » dit le docteur en souriant d'un air de pitié protectrice, « je ne m'étonne plus de rien, et je laisse dire. »
Il allait rentrer dans la chambre de Consuelo, dont le chapelain avait poussé la porte pour qu'Albert n'entendît pas ce colloque. Lorsque le chapelain lui-même, pâle et tout effaré, quitta la malade et vint trouver le docteur.
« Au nom du ciel, docteur » s'écria-t-il, « venez employer votre autorité. La mienne est méconnue, et la voix de Dieu même le serait, je crois, par le comte Albert. Le voilà qui s'obstine à saigner la moribonde, malgré votre défense, et il va le faire, si, par je ne sais quelle force ou quelle adresse, nous ne réussissons à l'arrêter. » Dieu sait s'il a jamais touché une lancette. Il va l'estropier s'il ne la tue sur le coup par une émission de sang pratiquée hors de propos.
Oui, da, dit le docteur d'un ton goguenard et en se traînant pesamment vers la porte avec l'enjouement égoïste et blessant d'un homme que le cœur n'inspire point.
Nous allons donc en voir de belles si je ne lui fais pas quelque compte pour le mettre à la raison.
Mais lorsqu'il arriva auprès du lit, Albert avait sa lancette rougie entre ses dents. D'une main, il soutenait le bras de Consuelo et de l'autre l'assiette. La veine était ouverte et un sang noir coulait en abondance. Le chapelain voulut murmurer, s'exclamer, prendre le ciel à témoin. Le docteur essaya de plaisanter et de distraire Albert, pensant prendre son temps pour fermer la veine, sauf à la rouvrir un instant après quand son caprice et sa vanité pourraient s'emparer du succès. Mais Albert le tint à distance par la seule expression de son regard, et dès qu'il eut tiré la quantité de sang voulu, il plaça l'appareil avec toute la dextérité d'un opérateur exercé. Puis il replia doucement le bras de Consuelo dans les couvertures, et, passant un flacon à la chanoinesse pour qu'elle le tînt près des narines de la malade, il appela le chapelain et le docteur dans la chambre d'Amélie. « Messieurs, leur dit-il, vous ne pouvez être d'aucune utilité à la personne que je soigne. L'irrésolution ou les préjugés paralysent votre zèle et votre savoir. Je vous déclare que je prends tout sur moi et que je ne veux être ni distrait ni contrarié dans l'accomplissement d'une tâche aussi sérieuse. Je prie donc monsieur le chapelain de réciter ses prières et monsieur le docteur d'administrer ses potions à ma cousine. Je ne souffrirai plus qu'on fasse des pronostics et des apprêts de mort autour du lit d'une personne qui va reprendre connaissance tout à l'heure. Qu'on se le tienne pour dit. Si j'offense ici un savant, si je suis coupable envers un ami, j'en demanderai pardon quand je pourrai songer à moi-même. » Après avoir parlé ainsi, d'un ton dont le calme et la douceur contrastaient avec la sécheresse de ses paroles, Albert rentra dans l'appartement de Consuelo, ferma la porte, mit la clé dans sa poche et dit à la chanoinesse « Personne n'entrera ici et personne n'en sortira sans ma volonté. »